101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la musique.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 5 mars et ici Charline Carreau, votre animatrice en cette journée ensoleillée. Et aujourd'hui, on reçoit nos chroniqueurs avec Michel Binette pour la philosophie et Daniel Biru pour le reportage. Et en entrevue, ce sera la plongeuse Nathalie Lasselin. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la STM envisage de ne plus interrompre son service lorsqu'un passager subit un malaise à bord du métro. Cette approche a été lancée récemment par les transports en commun parisiens et est jugée intéressante par les services montréalais. Actuellement, le protocole de la STM indique que lors d'un malaise, la personne ne doit pas être bougée en attendant les secours, ce qui cause parfois de longues interruptions de service. Et ensuite, 27 logements sociaux vont être construits dans Saint-Michel à destination des personnes âgées sans abri. C'est un projet à 12 millions de dollars auquel les niveaux municipaux, provinciales et fédérales ont tous contribué. Les élus de la ville ont annoncé dans la foulée la création de 16 studios destinés aux jeunes en difficulté, notamment à la sortie de la DPJ. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la plongeuse Nathalie Lasselin. Et je reçois ce matin Nathalie Lasselin, exploratrice de fonds marins et cinéaste. Bonjour Nathalie.
Bonjour Charline.
Comment on devient exploratrice de fonds marins? Petite question pour commencer qui m'intrigue.
Petite question, je pense qu'on reste curieux. Mmh. En fait, je pense que foncièrement, il faut être curieux et avoir envie d'assouvir cette curiosité, d'aller voir au-delà de la ligne d'horizon, en dessous de la surface, et de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis en plus, Google, il ne peut pas m'y amener encore, ce qui est génial, quoi.
Et quel est le parcours que vous avez suivi? Un cheminement type ou ça s'est fait un peu au hasard?
Oh là, il n'y a pas de ligne droite. En tout cas, la vie n'est certainement pas un long fleuve tranquille. En termes de cheminement, moi, j'ai commencé par le milieu cinématographique. J'ai étudié en cinéma et puis je suis venue à la plongée un peu plus tard dans ma vie. Et quand je me suis mise à la plongée, ça a foncièrement changé complètement mon quotidien. Mmh.
Parce que donc, avant de découvrir la plongée, vous étiez d'abord passionnée de photos et de cinéma. Le lien n'est pas forcément évident entre les deux, mais en fait, l'association de ces deux activités s'est avérée très pertinente.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est pas évident parce que c'est pas parce qu'on travaille en documentaire, en fiction, que nécessairement on va aller en dessous de l'eau. Pour moi, aller en dessous de l'eau, forcément, la journée où j'étais à l'aise sous l'eau, j'ai amené une caméra parce que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir partager ce que j'ai le privilège de voir. Parce que ça reste un privilège d'aller sous l'eau. C'est pas à la portée de tout le monde pour toutes sortes de raisons. Donc, tant qu'à faire, autant le partager.
Et pour finir de présenter vos nombreuses étiquettes, vous êtes également conférencière. En quoi c'est complémentaire de cette activité de plongeuse? Quel est le lien?
En fait, non seulement je suis plongeuse, mais je suis avant tout exploratrice. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans des endroits où pas grand monde est allé ou personne. Et forcément, ça nous pousse à mener des expéditions avec une logistique, une équipe et à faire face à l'adversité. Et à force de chercher de nouveaux outils pour passer à travers toutes ces étapes-là, on développe une certaine expertise qui finalement peut servir au quotidien aussi bien dans des entreprises que pour des écoles. Donc, je donne beaucoup de conférences, aussi bien pour des corporations que dans des écoles. Et en plus, les enfants de quatrième année m'étudient dans leur cahier à l'école, ce qui est vraiment sympathique, ce qui me permet de pouvoir faire un lien entre ce qu'ils peuvent voir à la télé, les animaux marins, et puis comment on fait pour prendre ses palmes, son masque, son tuba, et puis aller visiter ce monde-là.
Et justement, quels sont les enseignements que vous retenez de l'exploration? Qu'est-ce que vous transmettez à travers ces conférences-là?
Le premier enseignement, je pense qu'on oublie très souvent que nous sommes des humains. Alors les humains, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir une force à l'intérieur de nous et aussi beaucoup de faiblesses ou de limites. mais la capacité, les ressources pour pouvoir les dépasser. Et on est dans un monde qui est quand même aseptisé. On est très, très organisé avec des structures. Et à chaque fois que je me retrouve, que ce soit en Arctique ou dans le réservoir Manicouagan, par exemple, ou dans le désert en Australie, il faut qu'on trouve en nous toutes les ressources inimaginables, au-delà de l'équipement qu'on peut avoir, pour pouvoir avoir une certaine zone de confort qu'on va élargir pour pouvoir explorer ce qu'on a envie de voir. Donc c'est surtout ça que la nature, l'environnement, le plein air finalement et le monde marin m'apporte. Et ensuite, c'est de le partager à différents niveaux, parce que je pense qu'on fait tous face à une certaine forme d'adversité tout au long de notre parcours.
Oui, c'est ça. Même si le public n'a pas forcément vécu vos expériences, il peut comprendre les enseignements que vous en tirez. Il peut les appliquer aussi dans son quotidien.
Tout le monde a déjà eu une mauvaise journée au bureau.
En effet.
Donc, partant de là, effectivement. Et souvent, quand je donne les conférences, en fait, c'est que je les amène dans mon univers. Donc, c'est un petit peu comme si le temps de la conférence, je les amène en vacances. Pas nécessairement le long d'une mer bleue et d'une plage de sable, mais je les amène dans un univers de dilettante, de découverte, donc qui allège, qui nous met dans une réceptivité plus importante. Et en même temps, tous les liens sont faits avec... le quotidien, le travail ensemble avec l'équité, l'adversité. Et ça me permet de faire beaucoup de liens très, très imagés parce que j'utilise beaucoup, évidemment, l'audiovisuel parce que c'est mon métier de départ, c'est ma passion de départ. C'est comment transmettre une histoire, une aventure avec des images, avec des sons, avec tout ce qu'on partage avec les autres humains.
Et au final, l'exploration, c'est une philosophie de vie.
Oh ouais, carrément.
Carrément.
Ah ouais,
sans hésiter.
Oui, c'est vraiment une philosophie de vie. Je pense que c'est intrinsèquement ancré en les explorateurs de devoir. C'est vraiment un besoin, c'est un devoir. Il y a cette nécessité pour être sur son X, si on veut, c'est d'aller voir toujours un peu plus loin, de découvrir et de partager ces découvertes-là.
Et pour finir sur ce côté mental, vous concernant, vous dites que la plongée a changé votre vie, tout simplement.
Oui, tout à fait.
C'est toujours d'actualité.
Ah oui, ça a effectivement changé ma vie. Après, comme plongeur, on évolue. Et je pense qu'à chaque fois qu'on s'intéresse à une activité sportive, on évolue. Au départ, on va vraiment mettre l'accent sur comment faire cette activité-là, partager la passion de l'activité comme telle. À l'heure actuelle, maintenant, pour moi, la plongée, ça reste un moyen de transport. C'est assez drôle à dire, mais c'est ce qui me permet d'aller dans les profondeurs, de repousser les limites, d'aller dans des endroits inaccessibles dont on n'avait pas vu d'image encore. Et ça reste vraiment un moyen de transport, ce n'est pas une finalité. Alors que ça peut tout à fait être une finalité. Il y a beaucoup de personnes qui s'en servent, notamment pour les personnes qui ont un handicap ou une limite XY pour simplement se sentir bien sous l'eau.
On en vient à la pratique. Vous avez plongé dans plus de 60 pays, vous avez vu des grottes, des épaves, des banquises, des animaux et j'en passe. Mais dans quel milieu vous préférez plonger ? Quel milieu vous préférez explorer ?
En fait, honnêtement, j'aime tous les milieux. Autant j'adore plonger à Montréal, pourtant il n'y a pas de poissons hyper colorés, la visibilité n'est pas bonne, mais c'est mon fleuve Saint-Laurent. Puis bon, j'ai un petit sentiment d'appartenance, c'est mon fleuve Saint-Laurent. Quand j'ai l'occasion de plonger dans le fleuve et que je me retrouve face à un esturgeon, c'est extraordinaire de voir ces poissons-là qui sont assez emblématiques quand même. Et aussi bien d'aller en Arctique que dans des grottes. Chaque plongée, pour moi, c'est l'occasion de découvrir quelque chose de différent.
Comment on se sent quand on est immergé à plusieurs dizaines de mètres de profondeur ? Est-ce qu'on peut parler de dizaines, dans votre cas ?
Oui, on peut parler de 110 mètres, 120 mètres. Okay. Je fais des plongées qui sont considérées très engagées, non seulement par leur profondeur, mais aussi dans les conditions dans lesquelles on les fait. Souvent, la visibilité n'est pas extraordinaire, l'eau peut être relativement froide. Alors, comment on se sent dans ces plongées-là engagées ? On se sent dans un niveau de focus au maximum. Quand on parle de vivre le moment présent, je crois que c'est l'exemple par excellence, parce qu'on tout peut arriver à n'importe quel moment. Mmh. Il faut être extrêmement vigilant. Et on est vraiment, on a tous nos sens qui sont au maximum à voir, à entendre. On écoute notre respiration, on écoute la machine quand on est avec un recycleur, comment il réagit. On revérifie nos ordinateurs, la profondeur, le temps de décompression. Donc, on a vraiment tous les sens au maximum tout le long de la plongée. Et quand on arrive au dernier palier où on décompresse, là, on est plus relax, puis on revit
en
un
mode
peu.
Baignade.
Voilà, là, on est en mode, on revit un peu le moment qui vient de se passer.
Mais à 100 mètres, on est focus sur la sécurité, donc.
Ah, complètement. Ouais,
ouais. Et ouais, pas forcément ouais. Sur le. Vous profitez quand même ou vous êtes trop là à faire attention à votre propre sécurité?
Non, je pense qu'on profite vraiment parce qu'à un moment donné, ben, on n'arrive pas de 0 à 100 mètres du jour au lendemain. Hein. Ça mm-hmm. prend quand même un certain nombre de plongées, de pratiques. Mm-hmm. Et je pense qu'on arrive à pouvoir en profiter parce que justement, on a suffisamment de pratiques. Donc, on sait ce à quoi on doit faire attention mm-hmm. et on sait quel son ou quelle indication visuelle va nous mettre en alerte. Mm-hmm. Et tant qu'on ne l'a pas, tout va bien. Donc, on est complètement alerte de ce qui se passe. De notre environnement, de nous, de la profondeur à laquelle on est, mais en même temps, on en profite au maximum.
Bien sûr. Si vous deviez retenir une seule expérience que vous aimeriez nous raconter, celle qui vous a le plus marqué, pour qu'on se rende compte un peu le genre de moment que vous vivez, ce serait lequel ?
C'est toujours un petit peu difficile de choisir une expérience, parce oui. qu'il y en a tellement qui sont extraordinaires. Je dois dire que une des expériences que j'aime beaucoup, c'est de plonger le long d'un iceberg dans l'Arctique canadien. J'aimerais tellement que tous les Canadiens puissent un jour monter le plus au nord possible. Une fois de plus, c'est pas nécessairement accessible. C'est loin, ça coûte cher. Mais quand on est sur la banquise, c'est un petit peu comme être dans le désert. On est sur une planète. On n'est plus au Canada. On n'est plus sur la Terre. On est sur une planète. C'est de l'état brut. Et quand on plonge le long d'un iceberg, ça ne sert à rien de marquer le point GPS. Parce que dans deux jours, il ne sera peut-être plus là, l'iceberg. C'est absolument unique. Ce sont des formes dans la glace qui est millénaire, mais qui est en train de disparaître. Il y a quelque chose de magique et en même temps quelque chose qui est très très prenant parce qu'on sait pertinemment que c'est en train de disparaître, c'est en pleine mutation. Donc ces plongées-là, pour moi, sont les plongées les plus précieuses parce que j'ai conscience de la beauté phénoménale de ces créations de la nature. C'est des monstres de glace. Et nous, ben, on est tout petits à côté. Et puis, on est dans une eau où il fait moins 2 degrés Celsius. Parfois, il y a un peu de courant. Alors, on est au bout de notre corde et on n'espère pas partir en dessous de la banquise. Et on a cette espèce de monstre de glace fascinant en face de nous.
Ben, c'est un très beau moment. Belle sélection. Et en tant que photographe, vous parlez de beauté. En tant que photographe, vidéaste, quelle est l'image que vous avez préférée réaliser et de quelle image vous êtes la plus fière?
Là encore, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses que j'ai filmées, photographiées. Et je vais nous ramener une fois de plus au Canada et surtout au Québec. Je travaille sur un projet du réservoir Manicouagan, qui est en termes de volume, un des plus gros réservoirs hydroélectriques au Québec. C'est le 4e cratère d'impact au monde. Et c'est surtout une terre des Inuits qui a été noyée. Et la première fois que j'ai plongé pour faire des images, parce qu'il n'y avait pas d'image en fait, du réservoir, et de plonger à travers la forêt boréale qui est noyée, dans des conditions où il fait noir, la première plongée, on s'est perdu au bout de 30 secondes, c'était incroyable. Et finalement, on arrive à placer les lumières et à filmer cette forêt qui est un symbole de résilience extrêmement fort. Pour moi, c'est des images dont je suis très, très fière et auxquelles je suis très attachée, non pas seulement pour leur beauté, mais pour la symbolique, pour ce qu'elles représentent et pour le questionnement qu'elles nous apportent par rapport à notre relation à la nature et la façon dont on l'utilise.
Et justement, en parlant de symbole, le fleuve Saint-Laurent est un des fleuves que vous préférez explorer parce que c'est le symbole de notre ville, c'est le symbole aussi d'un fleuve qui va mal, qui est pollué. Pourquoi avoir choisi cet emblème pour représenter votre lutte pour l'écologie, contre les changements climatiques ?
Il y a quelques années, en fait, à chaque fois que je pars en expédition un peu partout, je prends l'avion. Mmh. Et c'est drôle, on survole toujours le fleuve Saint-Laurent. Puis je me disais, c'est quand même drôle. Je m'en vais au bout du monde et je ne sais même pas à quoi il ressemble, le fleuve Saint-Laurent, à côté de chez moi. Alors, c'est sûr, quand on passe au-dessus, il est vert, il est brun. Il y a les bateaux de transport maritime. On le voit comme la voie économique du Canada. Mm-hmm. C'est comme ça que ça s'est créé. Mais en même temps, je me disais, mais c'est 80% de la population de Montréal qui boit l'eau du fleuve Saint-Laurent, on l'oublie, et c'est 50% de la population du Québec, et nos eaux usées y retournent. Alors, il y a plusieurs années, je me suis dit, je vais faire une traversée, je vais me prendre pour une goutte d'eau, et je vais partir de l'île Père-Rouge jusqu'à Repentigny, je traverse Montréal, mais pas par Sainte-Catherine, mais par le fleuve Saint-Laurent. Et c'était absolument extraordinaire, et effectivement, c'est un fleuve qui est riche, il y a plus de 60 espèces de poissons. Si on pense à l'environnement que ça apporte, c'est plus de 200 espèces d'oiseaux, dont des oiseaux nicheurs, qui viennent le long du fleuve Saint-Laurent. Et malheureusement, ben, on le regarde un petit peu comme quelque chose qui nous enquiquine, mm-hmm. parce qu'il faut passer des ponts pour le traverser. Nous sommes des insulaires à Montréal et on oublie sa richesse et tout ce qu'il peut nous apporter.
Mm-hmm. Vous avez donc plongé dans le fleuve sur 70 km. C'était un acte politique, un moyen de revendiquer cet engagement-là ?
Oui, alors politique, je dirais que c'était un acte du cœur. C'était un cri du cœur de dire, écoutez, ce fleuve-là... Il faut y faire attention. On n'en a pas deux. Hein. Et il faut y faire attention parce qu'on veut faire attention à nous-mêmes. Si on veut faire attention à notre santé, on se doit de s'assurer d'avoir une eau de bonne qualité. Et pour avoir une eau de bonne qualité à l'heure actuelle, ce n'est pas juste de dire « oui, la grosse industrie, c'est nous aussi ». Ce qui m'intéressait mm-hmm. quand j'ai fait la traversée, c'était de me poser des questions sur le niveau de pollution actuel. Alors, on sait, dans les années 70, etc., c'était les BPC, le plomb, le mercure et tout ça. Mais à l'heure actuelle, une des sources de pollution qui pose énormément de questions, c'est tout ce qu'on appelle les contaminants d'intérêt émergent. Pesticides, herbicides, résidus de médicaments, hormones, etc., etc. Et ça, ben, c'est nous qui l'on consommons. Mm-hmm. Donc, comment on peut faire, nous, comme personne et comme société, pour faire en sorte de mieux prendre soin de nous, pour être moins dépendant des médicaments. Alors attention, hein, y a bien des maladies pour lesquelles on n'a pas le choix de prendre des médicaments, ça c'est clair, ou des traitements. Mais il y a plein d'autres situations où est-ce que si on fait plus attention à notre santé, santé physique, santé mentale, santé financière, on n'est pas en mesure d'être un peu plus en équilibre avec nous-mêmes et justement d'être plus en équilibre avec la nature et d'être plus en harmonie. Alors, je ne sais pas si c'est un acte politique, mais c'est pour moi plus un acte du cœur. Mm-hmm. On a les moyens de faire quelque chose. Mm-hmm. Faisons-le parce que c'est pour nous qu'on va le faire.
Et justement, vous dites que vous réalisez la multitude de petits gestes qu'on peut poser pour changer la santé de notre environnement proche. La politique des petits gestes, elle peut être parfois critiquée pour son utopie, son inefficacité. Pourquoi, vous, c'est quelque chose dans laquelle vous croyez ?
Peu importe notre place dans la société, on a une capacité d'avoir un impact sur quelqu'un. Et si on prêche par l'exemple, il se peut qu'à un moment donné, on puisse avoir un impact sur quelqu'un qui est en position de pouvoir, que ce soit une grosse entreprise ou quelqu'un à un palier gouvernemental. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la seule chose à faire. Les petits gestes, c'est une partie de la solution. Après, il y a des actes politiques à poser, etc. Moi, je pense qu'on peut y aller chacun avec notre force, avec notre sensibilité et là où on a le plus d'énergie à mettre. Oui, ça peut être très critiqué, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Mmh. On ne fait plus rien parce que ouais, mais ça ne vaut pas la peine parce que le voisin, il ne le fait pas. Ben, à ce moment-là, on laisse tomber, quoi, puis on ne fait plus rien du tout. C'est sûr que parfois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bâtons dans les roues, même pour faire des actes positifs pour l'environnement. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point on peut avoir des réglementations qui nous empêchent, même parfois, de juste retirer des pneus dans le fleuve Saint-Laurent. Mmh. Et là, on se dit quand même, c'est un peu gonflé. On est là à vouloir faire des choses positives et on se fait mettre des bâtons dans les roues. Bon, passons. Sauf qu'on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Et c'est une des choses parmi tant d'autres à faire.
Et justement, vous, votre rôle, c'est de montrer la réalité, notamment celle qui se passe sous l'eau. Parce que comme vous dites, quand on voit les choses, on ne peut plus fermer les yeux. On a reçu hier une cinéaste terrestre, cette fois avec Louise Leroux, qui est allée filmer la réalité des femmes prises dans le conflit en République démocratique du Congo. Je ne pensais pas pouvoir faire un lien entre vous deux, mais finalement, vous vous attachez toutes les deux à montrer une réalité qu'on ne voit pas pour faire, au final, changer les choses. Voir, c'est agir, prendre conscience.
Effectivement, et puis je pense qu'il faut... Je pense qu'on est peut-être dans les dernières années où cet outil-là sera un outil viable. Faut pas se leurrer, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui vont changer. En même temps, je crois foncièrement que de pouvoir documenter et de pouvoir amener cette documentation-là directement aux personnes, c'est un outil extrêmement fort. Mmh. Je travaille énormément en télévision, cinéma, etc. Maintenant, je fais de plus en plus de conférences. Pourquoi ? Parce que je suis en face des personnes. Et là, il y a vraiment un échange. Il y a vraiment la personne qui va recevoir, qui va pouvoir réagir et poser les questions, remettre en question aussi. Et là, je pense qu'on a un rapport humain. Alors, c'est sûr qu'on touche moins de personnes en une heure hein, que d'y aller par les grands médias. En même temps, parfois, il suffit d'un regard, d'un sourire, d'une phrase pour changer le comportement, pour améliorer la situation. Et je pense que ça demeure extrêmement important de documenter. Moi, j'ai commencé à l'Office national du film. À l'époque, j'ai travaillé sur plusieurs documentaires du Studio D, qui était le studio des femmes, mmh. avoir documenté la réalité des petites filles dans le monde, etc., à travailler sur ces projets-là qui, moi, ont changé ma vie. Alors, je me dis, s'ils ont changé ma vie, ça se peut que de continuer ce type de travail-là peut changer la vie ou le regard sur certaines choses de certaines personnes.
C'est un très beau projet. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous parler d'exploration et de plein d'autres choses aussi. On peut retrouver tout votre portfolio et vos services sur aquanat.com. Merci beaucoup et puis bonne continuation.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous. On continue sur CIBL avec le reportage de Daniel Biru. Mais avant ça, on écoute Plongée, forcément, de Joanie Benoît.
Puisqu'il faut plonger, fermer les yeux, respirer, plonger, comme si la peur n'empêchait rien, comme si plus rien ne nous faisait peur. Autant plonger lorsqu'il faut plonger, prendre un élan sans souffler, sauter, comme si l'on se donne.
C'est comment de jouer au hockey avec son père?
Au début, papa comptait tous les buts. Mais au bout d'un moment, il s'est suis fatiguée et il est tombé par terre. Et puis là, je suis passée devant...
Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec. Puis, Sarah, comment on se sent après une bonne randonnée?
Très contente. Oh, ça fait du bien. Waouh, la vue!
Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec.
Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Et on est de retour sur CIBL avec notre journaliste Daniel Biru pour son reportage de la semaine. Bonjour Daniel.
Bonjour Charline.
Et aujourd'hui, on parle d'un sujet particulièrement local.
En effet, oui, c'est ça. J'ai décidé de faire un reportage sur les émissions qui ont débuté et qui vont débuter dans les prochaines semaines à CIBL. Donc, j'ai été parler avec différents animateurs, différents producteurs qui travaillent sur des émissions ici. J'ai réalisé un petit reportage là-dessus. Ouais.
Très bien. Eh bien, on écoute ça et puis on est de retour en studio pour quelques questions supplémentaires.
CIBL présente toute une gamme de nouvelles émissions depuis le début de l'hiver 2024 qui portent sur une grande variété de sujets tout aussi dynamiques les unes que les autres. Culture, lettres, jeux de mots, changement climatique, l'arrivée du printemps, la crise du logement, les multiples animateurs auront dans leurs mains un large éventail de contenus à couvrir d'ici la fin du printemps. Ces passionnés de radio ont beaucoup de contenus à faire découvrir au public et ils ont tous connu des premières semaines très enrichissantes. Après avoir travaillé tout l'été dernier sur l'élaboration d'un concept original, Catherine Canel et Lou Denoux ont enfin mis le doigt sur l'émission de radio parfaite pour leur duo culturel. S'ils voulaient animer une émission très festive ensemble, il voulait également garder comme idée principale de parler le plus possible de sujets d'actualité, entourés de collaborateurs tout aussi dynamiques les uns que les autres. Ils sont tombés sur le nom Sainte-Catherine-Saint-Loup, qu'ils ont passé l'automne à préparer et qui a fait son entrée en onde en janvier dernier, le samedi à 19h. Les animateurs ne pouvaient pas demander mieux.
Bien, rapidement comme ça, au début, je dirais que c'est un show où on revient sur l'actualité des dernières semaines ou de la dernière semaine, de manière festive, tout en restant pertinent, puis on va définitivement dans les sujets un peu plus lourds. Puis on n'est pas seul à faire ça, moi et Catherine.
Nous, c'est important de comme recouvrir plein de sujets, dans le fond, puis on le fait à travers plusieurs chroniques, tu sais, donc on a trouver du monde autour de nous qui faisait de la radio. Donc, on parle de féministes, on parle des chroniques régionales, qu'est-ce qui se passe dans les régions du Québec. C'est notre correspondant à l'étranger, Thomas Mercier, qui est étudiant à Jonquière, dans le fond. Et lui, fait les chroniques de ça. Donc, on a sinon la pop culture, un édito critique à chaque semaine, ouais. Des sujets moins discutés dans l'actualité.
Les deux amis de longue date, qui vivent en colocation depuis maintenant un an, présentent une très belle chimie en ondes, autant entre eux qu'avec leurs collaborateurs, et cherchent vraiment à faire valoir leur point de vue sur les enjeux actuels au public.
Fait que c'est un show mené par... Parce que moi et Catherine, on est de la génération Z. Fait que c'est un show, pas de jeunes, mais c'est un show intergénérationnel qui vise à parler à tout le monde, mais c'est un show qui parle de notre point de vue à nous, nos intérêts, et qui va large, parce qu'on a été élevé un peu comme ça, on est intéressé par à peu près tout.
Pour les deux animateurs, la radio est un médium qui leur permet d'avoir une bonne proximité avec les auditeurs. Provenant tous les deux de milieux artistiques suite à leur parcours universitaire, ils veulent pouvoir refléter leur conscience sur le monde et faire part de la grande variété des sujets qui les préoccupent.
moi et Catherine, on a une conscience très actuelle de notre monde, de ce qui se passe dans notre monde, puis des enjeux actuels aussi, puis je pense qu'on essaie de le refléter dans le show. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle, d'un petit peu d'environnement.
On a nos intérêts respectifs. T'sais, Lou qui étudie en littérature, moi je suis plus en cinéma, mais les deux, les médias, les communications, puis la radio, c'est vraiment ce qui nous regroupe.
En primeur, Catherine et Lou nous partagent quelques noms d'invités qui seront au programme des prochaines semaines.
On va recevoir Chantal Guy pour parler un peu de sa couverture d'Haïti dans ses chroniques, puis revenir un peu sur ses chroniques marquantes, mais parce qu'on a une affinité particulière pour Chantal Guy depuis longtemps, parce qu'on aime beaucoup ses chroniques, moi et Catherine. On va recevoir notamment Jeanne Côté bientôt, celle qui a gagné les francs couvertes de l'année passée, parce que ça va faire un an qu'elle a gagné les francs couvertes.
On reçoit Philippe Lacroix, qui est un animateur recherché sans télé, pour nous parler de la crise des médias, les solutions qu'on pourrait avoir, d'où partent les problèmes financiers. Donc, aller vraiment en profondeur avec ça. Ça va être bientôt.
Très varié.
Donc, c'est son essai de varier le plus possible.
Également au programme depuis janvier, À la croisée des toits. Animé par Sébastien Parent-Durand et Richard Ryan, deux anciens attachés politiques municipaux, les deux animateurs offrent leur point de vue sur la crise du logement en 2024 et les solutions qui peuvent y être apportées collectivement. Sébastien et Richard, qui se sont connus par l'entremise de collègues en commun, ont eu l'idée de ce projet à la suite de longues discussions sur le sujet au cours de l'automne et ont également collaboré dans d'autres projets par le passé. Ils ont pour mission de consacrer une heure par semaine aux différents enjeux de l'habitation sous un angle en particulier. Sébastien Parent-Durand.
On consacre une heure aux différents enjeux de l'habitation. Donc, on choisit un angle particulier à chaque semaine qui touche à l'habitation. On essaie de vulgariser l'enjeu en question et avec une personne invitée spéciale à chaque semaine, on essaie de proposer des solutions. Donc, on explore avec nos invités les solutions possibles à cet enjeu-là.
Les deux animateurs expliquent avoir touché à une série d'enjeux qui, selon eux, ont fait en sorte de nuire à l'accès au logement dans le Grand Montréal au cours des dernières années. Ils soutiennent que leur parcours en politique les a aidés à voir la problématique sous un œil différent. Et ils voulaient tous les deux apporter des pistes de solutions et les partager au public.
J'ai un parcours en politique municipale, donc de 2013 à 2021, j'ai été directeur de cabinet à l'arrondissement du plateau Mont-Royal. J'ai travaillé sur plusieurs, notamment beaucoup sur le dossier de l'habitation. En arrondissement, on a travaillé sur le dossier des rénovictions, de l'hébergement temporaire de type Airbnb. On a aussi élaboré des politiques locales d'inclusion en logement social. Donc, on a beaucoup travaillé avec des organisations communautaires pour développer du logement social.
Dans quelle mesure la croisée des toits contribuera à faire œuvre utile dans la société? Les idées présentées aideront-elles concrètement à faire avancer la situation? Et les acteurs économiques et sociaux en sont-ils à l'écoute? Et Richard Ryan s'est penché sur la question lors de la planification de l'émission.
Je suis consultant d'habitation depuis un an et demi. Sébastien, à titre maintenant de directeur de l'Alliance des corporations d'habitation abordable d'abord du territoire du Grand Montréal, mais maintenant, ils ont changé leur charte à travers le Québec. Donc, ils regroupent, ils sont en lien avec un paquet d'acteurs aussi de l'habitation. Fait que ces gens-là savent qu'on fait ça. Ces gens-là écoutent l'émission. Mais bon, évidemment, on espère s'adresser aussi un minimum à d'autres gens qui peut-être sont en économie sociale, peut-être sont dans le milieu communautaire, mais pas nécessairement en habitation, qui veulent en savoir plus.
Cette semaine, Sébastien et Richard parleront notamment de la Société de l'habitation des communautés noires en compagnie de Neil Armand. Les questions d'économie sociale et sur le modèle de Vienne seront aussi abordées au cours des prochaines semaines. À la croisée des toits est une émission à écouter en direct le mercredi de 8h à 9h. Finalement, l'émission la plus récente sur les ondes se prénomme de A à Z et a débuté jeudi dernier à 8h. L'animatrice Laurence Lucier explore en détail une lettre par semaine, en analysant chaque facette inimaginable de cette lettre. Laurence revient sur sa première émission, dans laquelle elle a traité de la première lettre de l'alphabet.
J'anime l'émission de A à Z. En gros, le concept, c'est qu'on décortique l'alphabet. Donc, à chaque semaine, une lettre est abordée. Par exemple, ce matin, on l'a fait. C'était à propos de la lettre A, vu que c'était la première émission. Puis, on fait vraiment juste analyser la lettre. Par exemple, on a roasté un mot, on s'est appris des définitions. Il y a eu une chronique sur un mot au hasard pris dans le dictionnaire. On s'est inventé des vies.
L'idée de départ pour Laurence est de réaliser 26 épisodes pour chacune des lettres. À la fin de l'alphabet, elle se laisse l'ouverture de reprendre un différent mot pour chaque lettre, une fois qu'elle en aura fait le tour.
Je crois qu'il y a tellement de mots qui existent qu'on peut vraiment se permettre de recommencer à la lettre A. Puis qui sait, peut-être qu'on va juste décider de déconstruire l'alphabet à ce moment-là, puis de comme faire A, après ça la lettre Q, puis juste...
évoluer en quelque chose d'autre.
Exactement, mais... là, je pense qu'on aime beaucoup ça, fait que je pense pas qu'on va se restreindre au nombre de lettres dans l'alphabet.
Après avoir participé à plusieurs émissions en tant que collaboratrice, il s'agit d'une première pour Laurence à titre d'animatrice. Elle dit qu'elle et son collaborateur ont toujours voulu faire de l'humour déjanté à la radio, un médium qui, selon elle, offre tout un monde de possibilités.
En fait, c'est un projet que j'ai parti avec mon ami Félix Wagner, avec qui j'ai fait l'école de l'humour en écriture. Puis, on avait envie de se partir un projet les deux ensemble. Puis, on aime vraiment la radio. On avait fait un cours de radio, de chronique. Puis, c'était vraiment, vraiment le fun. Bien, les deux, on a embarqué là-dessus, on a trippé. Fait qu'on a décidé d'envoyer une démo, puis de se lancer en radio. Puis, ça a marché.
C'est donc sur CIBL que ça se passe. Pour entendre du contenu varié, des animateurs cocasses et des questions sérieuses à des enjeux réels, restez à l'écoute de nos ondes pour ne rien manquer. Ici Daniel Biru pour CIBL à Montréal.
Et on est de retour en studio avec Daniel Biru qui vient de réaliser ce reportage. Merci beaucoup, c'est toujours bon de se tenir au courant de ce qui se passe à la radio.
C'est un plaisir.
Donc là, on a parlé des émissions qui ont été lancées. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir?
Évidemment, donc avec Sainte-Catherine, Saint-Loup, à la Croisée des Toits et de A à Z, j'ai pu prendre le pouls également là, de quelques autres émissions qui soit ont déjà commencé dans les dernières semaines ou vont le faire plus tard ce printemps. On va donc avoir Seul au monde, qui va être une série de chroniques audio qui ont été écrites et narrées par François Henrich, qui va se dérouler le mardi. À quand le changement, qui va être un balado mensuel sous forme de longues entrevues, qui va être animé par Arnaud Perron-Bouchard. Ça va jouer le lundi. Également, les solutions climatiques qui va être un balado mensuel également, qui va être 7 épisodes produits en collaboration avec la coopérative Coop Carbone également le père du printemps qui va faire l'entrée sur les ondes de CIBL à compter qui a déjà fait son entrée sur les ondes à compter de mardi dernier c'était vraiment en gros là, les différentes émissions les nouvelles émissions pour cet hiver.
Eh bien, ça donne envie. On va continuer de suivre cette programmation. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour ton prochain reportage.
Super. Merci beaucoup, Charline.
On continue sur CIBL avec la chronique philosophie de Michel Binette.
De ce côté, oui, t'as envie. Moi, je voudrais aller par là.
d'accord, tout à fait, ou même juste un peu. Sur la route et sur le décor, faudrait que je voudrais ce que tu veux.
Je voudrais que tu me veux de Sarah Amiel et Oriane Lacaille. Et on est à présent avec Michel Binet, notre chroniqueur philosophe. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu nous proposes une chronique toujours dans l'air du temps, parce qu'on parle du printemps qui arrive. On aurait pu faire cette chronique début avril, mais finalement, ça se passe début mars. Tout d'abord, que penser de ce printemps hâtif?
Bien, merci pour l'invitation. Et je trouvais intéressant de parler du thème du printemps. Avant le printemps officiel, si on veut, le 21 mars, parce qu'en effet, le printemps cette année, en plus, il est un peu à l'avance. Donc le printemps, c'est intéressant de se poser la question, parce que ça nous ramène aussi à ces cycles de la vie. Et on voit surtout le climat qui change constamment pour différentes raisons qui nous dépassent des fois déjà. Ce matin, je lisais dans le journal qu'il y a en ce moment, en plus, le phénomène El Niño, je pense, dans l'océan Pacifique. Donc, il nous amène des températures plus élevées et ce sera le cas pour les prochains mois, en fait.
Donc, philosophe et météorologue, je te remercie.
Oui, exact. Non, bien, c'est ça. Parce que comme philosophe, on essaie de se questionner sur la vie et sur les phénomènes de la nature, en fait, et sur l'univers et ses lois.
Et alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce printemps hâtif?
En fait, il faut réfléchir justement à cette idée que tout change. La seule chose de constant dans la vie, ou je dirais dans la nature, c'est le changement. Et là, je paraphrase un peu le bouddhisme, c'est-à-dire qu'il nous amène à réfléchir que tout est changement, tout est constamment en changement. Donc, pour nous, le climat est le meilleur exemple de ça parce que ça change. Bien qu'on sache qu'à chaque année, les mêmes saisons reviennent, elles ne sont jamais 100% pareilles que la saison d'avant.
On fait toujours une petite pause étymologie. Oui. Printemps, ça veut dire premier temps. Qu'est-ce que ça traduit?
Bien, c'est intéressant, cette étymologie, parce que ça nous ramène à cette idée de... Il y a un début, il y a un commencement, il y a un début de quelque chose... qui n'est pas linéaire, mais cyclique. Parce que ce premier temps, on le voit surtout dans nos hémisphères, au-delà de l'équateur, au sud et au nord, où il y a ces changements plus marqués des saisons. Et on voit que ce qui s'en vient, c'est un renouveau, une renaissance de la vie, que tout revient. On a passé quelques mois où c'est comme la vie semble avoir quitté. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas de vie dans les arbres, il n'y a pas de feuilles. Donc là, on revient à ce renouveau, mais qui n'est pas 100% nouveau, parce qu'on construit sur ce qui était là avant. Les arbres sont un bel exemple qui laisse à l'automne un peu ce qui n'est plus utile, qui ne sera pas utile pour le prochain cycle, et va reconstruire au printemps à partir de ce qui est stable, à partir de ce qui est solide, à partir de ce qui a passé cette période dite apparente, de mort apparente, en fait.
On en vient au cœur du sujet. Pourquoi se questionner sur le printemps en philosophie? Quel est le lien?
Ben justement, ce lien, comme philosophe, c'est bon d'essayer de se questionner, de se relier à la nature d'une autre façon, à la fois par la pensée, mais aussi par nos actions, par l'observation de la nature. Donc, en philosophie, c'est de se questionner, mais en quoi ça m'impacte et comment je peux m'harmoniser à cette, on peut dire, on peut l'appeler comme cette loi des cycles, qui est que la planète ou dans son parcours nous rappelle. Donc en nous, qu'est-ce qu'on peut faire renaître en nous, en fait? Qu'est-ce qui, sur quoi on peut construire qui est stable d'un cycle à l'autre? Parce qu'il y a beaucoup de changements dans nos vies. Hein? Physiquement, évidemment, on n'est pas les mêmes que quand on était enfant. Et dans 20 ans, on va changer beaucoup. Et aussi nos idées, nos façons de penser, nos préjugés, nos habitudes, tout est en changement. Mais on peut y mettre un peu de conscience en observant, mais qu'est-ce que je vais laisser derrière, qui ne sera plus utile pour moi, des vieilles habitudes, des vieilles façons de penser qui, en fait, me limitent, qui me bloquent, en fait. Parce que si je traîne un peu des choses qui... des corps morts, bien, ça m'alourdit comme être humain. Donc, on doit se relier comme dans ce cycle de renouveau, de renaissance constante, en lien avec nos expériences de vie, c'est-à-dire extraire de nos expériences de vie ce qui peut être utile. Bien souvent, on s'alourdit d'expériences ou d'impacts de la vie qui, en fait, ne sont pas utiles. Mais on n'a pas appris à travailler avec ça. Comment extraire quelque chose d'utile de mes expériences? Donc, c'est...
Et donc, on voit qu'on peut faire un lien entre le printemps et notre propre vie.
Exactement. Donc,
tout
c'est
lié.
Exactement.
Quelle saison, chaque saison a son sens philosophique et son influence. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre, notamment le printemps? Quel est son sens?
Oui. Ça a été mentionné, le renouveau, la renaissance, parce qu'on voit que ce qui s'en vient, c'est ce foisonnement de vie. Hein, c'est quelque chose, il y a les fleurs, il y a les oiseaux, tout revient, c'est comme une explosion de vie. Et si on continue ce cycle, on voit avec l'été, pour faire une analogie avec notre propre vie, en fait, le printemps, c'est comme la naissance physique même, la naissance de l'enfant. On voit qu'il est plein d'énergie, il a tout à découvrir, et puis il va faire des expériences. Mais au travers de la vie, on voit qu'on arrive à un âge adulte, un peu comme l'analogie de l'été, où là, tout est en puissance, tout est en force. Donc là, il y a un potentiel qui peut être allé chercher, c'est-à-dire de construire solidement notre futur, en fait. Mm-hmm. Avec l'automne, c'est un peu comme la maturité. On a fait des expériences, mais il y a quelque chose qui s'est enraciné solidement. Et puis, il y a des choses qui vont devoir être laissées derrière. Ça fait partie de la vie. Et avec l'hiver qui revient, c'est un peu comme l'âge d'or ou la vieillesse qui a aussi un rôle vraiment important parce que là, c'est comme si la vie revient à l'intérieur et revient dans une renaissance plus intérieure. On dit des fois que l'automne est le printemps des philosophes parce qu'on dit que c'est ce moment pour aller à l'intérieur de nous. Puis qu'est-ce que j'ai semé dans ma vie, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mon existence qui m'est utile, que je peux transmettre ensuite, un peu comme la nature... C'est la période où elle fait les semences, à la fois la récolte, mais aussi les graines pour le futur. Mm-hmm. Et donc, là, l'hiver passe, et ensuite, on peut renaître du cycle précédent. Quelque chose d'autre, quelque chose des fois de nouveau, quelque chose qui est le fruit de l'expérience passée.
Et c'est ce renouveau qu'on célèbre, parce que toutes les civilisations ont presque célèbre ou ont célébré le printemps. Ça vient du renouveau.
Exactement. Donc, il y avait dans plusieurs traditions ces fêtes qu'on a un peu perdues dans nos sociétés, je dirais, occidentales, et même partout dans le monde maintenant, où on fête des fêtes, mais sans vraiment la relier à au grand cycle de la vie. Oui, au niveau physique, mais aussi au niveau intérieur, c'est-à-dire comment on se relie les uns aux autres, comment on se relie avec la nature, comment on se relie à l'univers d'une certaine façon pour comprendre ces grands cycles.
Alors, il y a la philosophie, mais il y a aussi l'astrologie, l'astronomie. Quelle importance a le printemps dans ces disciplines?
Bien, on pourrait faire l'objet d'une chronique seulement pour ça, parce que c'est énorme, mais c'est vraiment intéressant parce que le printemps, dans le sens de l'astrologie, mais aussi astronomique, il y a son importance. On se rappelle dans certaines traditions, comme je parle maintenant de l'astrologie, qu'on connaît aujourd'hui, vient d'il y a... elle existait dans plusieurs traditions, mais l'image qu'on a souvent, ça vient de l'Égypte ancienne, il y a 5000 ans. Et 5000 ans, il y avait... vous savez, l'astrologie, c'est quand c'est là où le soleil se lève, c'est-à-dire à l'horizon. Derrière le soleil, il y a une constellation qui est le ciel étoilé. Et c'est au printemps, le 21 mars environ, c'est toujours une constellation qui est derrière. Donc, c'est cette constellation qui nous donne un peu le rythme. Au niveau astrologique, quand on est, on sait, je sais pas, moi, je suis taureau, tu sais, je suis... Mais au niveau astrologique, il y a un décalage de ce qu'on appelle le zodiaque, qui s'appelle la précession des équinoxes. Mm-hmm. Et je recommande à nos auditeurs d'aller voir sur YouTube, il y a des super belles vidéos qui expliquent le phénomène. Mais c'est comme si ces constellations tournent par rapport à nous. En fait, elles sont fixes, mais par rapport à nous, sur la Terre, c'est comme si tout ce disque tourne dans le ciel. Donc, le zodiaque se décale. Donc, il y a 5000 ans, c'était le soleil au printemps se levait devant le bélier. Et on a vu à l'Égypte ancienne, il y avait Ramsès, Ram, le bélier. Donc, c'est la force de l'expansion, de la croissance. Et maintenant, il y a 2000 ans environ, c'est le soleil au printemps se lève devant le poisson, la constellation du poisson, qui est liée, par exemple, dans certaines traditions, comme le christianisme, Jésus est souvent lié au poisson. C'est pas un hasard. Et dans quelques années, peut-être je devance, mais dans une centaine d'années, ce sera l'ère de ce qu'on appelle du Verseau. Mm-hmm. C'est lié à ce zodiaque qui se décale et va faire un cycle complet en 26 000 ans. Donc, c'est intéressant.
Ça. Oui, va falloir être patient.
Oui, exactement.
Et là, c'est l'ère de quoi, alors?
C'est ça. Nous sommes encore dans l'ère du poisson.
D'accord.
Qui se termine dans les prochains 100 ans et environ, là. Et ce sera l'ère du Verseau. Ce qui est intéressant, bon, on peut y adhérer ou non, on n'est pas obligé, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre mais pourquoi ils ont fait ça comme... Plutôt, ils ont imaginé ça comme ça, parce qu'il n'y avait pas de télescope, ils ne voyaient pas ça, mais sur plusieurs générations, ils voyaient que quelque chose se passait. Mais aussi, ils sentaient que l'énergie n'est pas la même dans ces grands cycles. De la même façon qu'il y a des cycles de la Terre, l'énergie n'est pas la même. L'énergie du printemps n'est pas la même que l'automne, même si... Le soleil, d'une certaine façon, est placé de la même façon hein, qu'on arrive à l'équinoxe. Équinoxe hein, égale équi et nuit. C'est-à-dire la nuit est égale au jour, à la fois le 21 mars et en septembre. Donc, le soleil par rapport à la Terre, on est comme placé de la même façon, mais l'énergie est totalement différente. Donc, c'est un peu la même idée de ces grands cycles de 26 000 ans qui ont leur propre énergie, en fait. Mais ceci dit, on ne sera peut-être pas là pour constater. Mais c'est
peut-être
intéressant
pas,
de s'y relier.
Avec un peu d'espoir, pourquoi pas. Il y a aussi une autre discipline duquel on peut voir le printemps, c'est la mythologie. Oui. Le symbole du printemps, ça représente quoi en mythologie?
Ben, un peu en lien avec cette idée du renouveau, le bélier au niveau astrologique, c'est cette force de croissance. Donc on peut s'y relier en nous... Qu'est-ce qui doit renaître et qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant comme force, en fait? Et on le voit dans plusieurs traditions où on prend, par exemple, les Aztèques ou à Itchen Itza, on voit la pyramide le 21 mars. La pyramide est placée de telle sorte à ce que le soleil, quand il se lève, fait une espèce d'ombre sur la pyramide qui donne l'apparence d'un serpent qui descend, en fait, du top de la pyramide. Mais on voit aussi ça dans d'autres traditions, comme égyptiennes, où on voit le printemps à l'équinoxe, où il y a le soleil entre, éclaire une partie, un dieu en particulier, par exemple, mais pas l'autre. Mais tout ça nous rappelle qu'il y a une partie ombre et lumière dans l'être humain. Il y a des principes éternels, des lois de la nature, appelons-le comme ça, ou des principes qui sont immortels, qui sont au-delà de nous, selon ces anciennes traditions, auxquels on peut se relier. Et qu'ils arrivent à un moment particulier dans les grands cycles. Évidemment, c'est symbolique. Mm-hmm. Mais comment on peut s'y relier? Bien, c'est à quoi nous, on se relie comme être humain? À quoi je voudrais aspirer? Qui je voudrais être? Qu'est-ce que je voudrais améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je voudrais faire? Et comprendre que ces choses ne viennent pas comme ça, mais qu'il y a des cycles. Il y a des cycles de construction, il y a des cycles pour l'incarner, si on veut.
Merci beaucoup, Michel, pour cette chronique printanière. Prépare ta chronique sur l'été, parce que ça va arriver
ça
très vite,
vient.
Peut-être début avril, on ne sait pas. Merci beaucoup, et puis on se retrouve la prochaine fois.
Mais merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
Ce qu'il reste du cœur qu'on m'a donné
il me laisse ce que lourd à porter, qu'il s'en aille prendre l'air, que nous puissions y voir un peu plus clair.
Au spectacle de Paul Roman, et pour nous l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain on reçoit l'humoriste Sébastien Haché et la journaliste Anne-Sophie Gravel. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme, et puis n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur les plateformes de podcast et notre site web pour retrouver notre émission. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Spraynet et Spandex, où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Spraynet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
Monsieur Bulle et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
La radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une espèce de longueur.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.